Nous parlons cette semaine de la fraternité et de ses conséquences, j'allais dire, notamment de la communion fraternelle, qui est une des valeurs de base du christianisme, car c'est par elle et en elle que nous pouvons rencontrer Dieu et le manifester. J'oserais dire même, et le rendre visible. Voyez comme il s'aime. Cette petite phrase qui se promène du côté des Actes des Apôtres n'est pas anecdotique. C'est le témoignage de ceux qui côtoient la communauté chrétienne primitive de Jérusalem, ceux qui voient vivre les chrétiens, et ce qui sort de leur cœur, c'est « voyez comme ils s'aiment ». On sent une admiration dans cette phrase et le fait qu'ils sont touchés par l'amour fraternel qui règne entre les chrétiens. Alors il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de poser un regard nostalgique sur cette communauté qui semble bien idéale et qu'il faudrait retrouver. Mais il s'agit pour nous, Église du XXIe siècle, d'avoir une écoute attentive de ce que l'Esprit Saint n'a jamais cessé de demander aux croyants de tous les temps et de toutes les époques. Le Père Cantalamessa, qui est un capucin bien connu, qui prêche souvent des retraites à Rome pendant le carême, et que le pape d'ailleurs a élevé au rang de cardinal, nous dit que la situation de l'Église primitive rejoint sur bien des points les conditions actuelles des chrétiens dans certaines régions du monde, tout au moins. Je le cite. C'est l'époque où le christianisme se ferait un chemin en ne comptant exclusivement que sur ses propres forces. Aucun bras séculier n'est là pour le soutenir. Les conversions ne sont le résultat d'aucun avantage extérieur, matériel ou culturel. Être chrétien n'est pas une habitude ou une mode, mais un choix qui s'effectue à contre-courant, au péril même souvent, de la vie. L'Église d'Occident vit aujourd'hui ce que certains appellent un heureux naufrage. C'est le titre d'un film du réalisateur québécois Guillaume Tremblay. Car cette Église est confrontée à une situation où la relation entre la vie et la structure héritée du passé ne fonctionne plus. C'est donc une heureuse provocation qui doit conduire les chrétiens à retrouver l'essentiel. Et dans cette quête de l'essentiel, eh bien, les éléments de la première communauté de Jérusalem apparaissent comme un chemin sans cesse renouvelé par le don du Saint-Esprit. L'Église a été longtemps, trop longtemps sans doute, considérée comme essentiellement hiérarchique. Aujourd'hui, elle est davantage reconnue et elle se reconnaît elle-même dans une dimension de communion de vie et de charité. Autrement dit, dans une hiérarchie, s'il doit y en avoir une, qui est une hiérarchie de service. Service des uns et des autres qui nous sont confiés, mais service aussi de ceux qui ne font pas partie de l'Église. Dans la communauté primitive de Jérusalem, telle qu'elle est décrite dans les Actes des Apôtres, on voit que l'Esprit Saint attire vers l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler la communion fraternelle, et il pousse vers l'extérieur dans le témoignage apostolique. La communion fondée dans l'amour est évangélisatrice. Car c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres que tous les reconnaissent comme disciples de Jésus. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette évangélisation extraordinaire du monde romain, méditerranéen même, qui, s'est développée en quelques siècles. Et elle a eu un succès aussi vaste, certainement davantage par les œuvres de charité que par les prédications elles-mêmes. En tout cas, ce qui frappait les païens, y compris certains empereurs romains, c'est le fait que les chrétiens s'occupent de leurs malades, s'occupent de leurs vieillards, s'occupent de leurs veuves, s'occupent de leurs pauvres, et non seulement cela, mais ils s'occupaient aussi des pauvres, des malades, des vieillards, des autres, qui ne faisaient pas partie de la communauté chrétienne. Et là, cet amour fraternel universel ne pouvait que bouleverser les cœurs et faire surgir des questions de fond. Pourquoi font-ils cela? Au nom de qui font-ils cela?
Étienne Dallaire.
Le mode de vie des premiers chrétiens est devenu le modèle de toute communauté chrétienne, y compris des communautés monastiques. C'est la thèse du père Louis Bouillet. Que nous dit donc saint Luc dans les Actes des Apôtres? Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. On voit que le premier point fort de cette communauté est qu'elle est à l'écoute de l'enseignement des apôtres. La communauté chrétienne ne peut pas se satisfaire de ce qu'elle sait à peu près. Elle doit toujours être en recherche. Elle doit toujours vouloir connaître davantage, notamment les Écritures, non pas pour se remplir la tête et être des chrétiens intellectuels, mais connaître davantage Dieu pour l'aimer davantage. C'est un point essentiel. Ensuite, nous voyons que un des premiers fruits de cette assiduité à l'enseignement des apôtres est que cela produit une fidélité à la communion fraternelle. Acte 2, verset 44, « Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. » Ou encore, au verset 32 du chapitre 4, « La multitude des croyants, de ceux qui sont unis au Christ, n'avait qu'un cœur et qu'une âme. » Il y a donc une union entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis au Christ. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Cette communion fraternelle, on le voit, elle est d'abord spirituelle. Elle prend sa source dans l'union de chacun avec le Christ. Et la mise en commun des biens matériels, bien sûr, est une conséquence logique de cette union des cœurs. Écoutons à ce sujet le pape François qui nous dit dans La Joie de l'Évangile, « Toute communauté de l'Église, dans la mesure où elle prétend rester tranquille, sans se préoccuper de manière créative et sans coopérer avec efficacité pour que les pauvres vivent avec dignité, et pour l'intégration de tous, court le risque de la dissolution. Elle finira facilement par être dépassée par la mondanité spirituelle. » Nous reviendrons sur cette communion fraternelle des Actes des Apôtres dans notre prochain rendez-vous.
je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia. Une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussi te choisir, elle me monte la voix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je me lance vers la lumière. Chemin d'harmonie.
Bonjour, c'est André de Chabannes. Pour écouter le meilleur du jazz, du blues, les toutes dernières sorties d'albums, retrouvez-moi pour ce grand moment d'émotion dans Jazz à tous les étages.
Jazz à tous les étages, cet été, le samedi à 22h et le dimanche, 23h.
Connaissances et témoignages.
Chers auditeurs, bonjour. Nous recevons avec grand plaisir ce matin Nicolas Guyard. Nicolas Guyard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Paul Valéry de Montpellier III, spécialiste de l'histoire du sacré et de la sainteté, sujet de votre thèse « Les villes sacrées », publiée, je crois, chez, m'avez-vous dit, Garnier, classique. Votre thèse portait sur les formes dévotionnelles à l'époque moderne et vous publiez au CERF, un ouvrage de 300 pages vendu 24 euros, Les reliques du Christ, une histoire du sacré en Occident, qui est un sujet tout à fait approprié à cette fin de carême et ces temps de passion. Nicolas Guyard, je voudrais commencer par une question un peu baroque peut-être, mais puisque le christianisme repose sur la croyance en la résurrection du Christ, n'est-il pas paradoxal de chercher et collecter les reliques de Jésus ?
Alors c'est effectivement une excellente question et vous soulignez d'emblée une tension qui traverse, à mon sens, l'histoire du christianisme, une tension entre la résurrection, l'absence originelle du Christ sur Terre après sa résurrection, et en même temps ce besoin de matérialité qui se retrouve alors plus largement dans le culte des reliques des saints, mais spécifiquement et de manière un peu plus surprenante autour de la figure dévotionnelle du Christ. Alors on sait très bien que l'Eucharistie, hein, c'est c'est le corps du Christ dans le christianisme, assez tôt dans l'histoire du christianisme. Mais pour autant, les chrétiens ont, au moins depuis le IVe siècle, cherché la présence du Christ sur Terre, la preuve de son incarnation. Donc on a vraiment cette tension d'une religion profondément incarnée avec la figure du Christ, mais ce Christ, qui fondamentalement est absent, en tout cas il n'est plus là, et donc cette tension a traversé toute l'histoire du christianisme jusqu'à aujourd'hui.
Alors le phénomène, vous le rappeliez à l'instant, apparaît au IVe siècle avec la paix de l'Église, quand effectivement le culte des reliques peut se développer au grand jour. Et il y a une figure clé, c'est l'impératrice Hélène, Sainte Hélène. Quel est le rapport entre les reliques, et la relique du Christ en particulier, et la christianisation du pouvoir impérial, le rôle d'Hélène auprès de son fils, l'empereur Constantin?
Alors effectivement, Hélène apparaît comme un personnage central alors peut-être pas dans l'origine du culte des reliques du Christ, mais en tout cas, ça prend une tournure tout à fait officielle et beaucoup plus importante à son époque. Alors, c'est relativement difficile pour les historiens et pour les historiennes de mesurer réellement son action, puisqu'en fait, on est dépendant de sources narratives rédigées généralement un peu plus d'un siècle après sa vie. Alors ce qu'on sait, c'est que Hélène est missionnée par son fils, Constantin, l'empereur Constantin, pour mener des travaux d'envergure autour du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et donc, il y a tout un ensemble de chantiers qui sont mis en place, et Hélène aurait, raconte les sources narratives, découvert, inventé, suivant l'expression consacrée, la croix, la vraie croix sur laquelle le Christ aurait été crucifié. Et donc, Hélène participe à une fusion de la figure de l'empereur, qui est empereur et rattaché au Christ. Les textes racontent que Constantin insère des clous de la vraie croix et des parties de la vraie croix dans son casque, etc.
Donc, y compris dans le mort de son cheval, ce qui peut paraître à la limite sacrilège.
Oui, mais en tout cas, on va avoir cette proximité entre la figure christique via ces objets de la passion qui circulent déjà, et la figure de l'empereur. Donc on pense qu'Hélène, effectivement, participe à ce qu'on peut appeler une idéologie christique au service de l'empereur, et là, qui reprend des dynamiques qui étaient déjà bien connues dans le monde romain, et même pour monter dans le monde grec, de fusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux.
Ce qui est d'ailleurs assez étonnant si l'on réfléchit qu'au moins en Occident, la christianisation est loin d'être achevée, que d'ailleurs Constantin lui-même n'est pas baptisé, ne le sera qu'à son lit de mort.
Tout à fait. Effectivement, on a tendance à oublier, puisqu'on a l'impression d'une histoire linéaire d'un christianisme qui se diffuse et qui s'impose sans rencontrer de difficultés, mais le choix d'Hélène et les gestes d'Hélène et de Constantin sont fondamentaux. Mais critiqué à l'époque, effectivement, on est à un moment où le christianisme n'est pas encore majoritaire dans toutes les régions de l'Empire romain, et surtout à un moment où le culte des reliques des saints et du Christ est largement critiqué par un certain nombre de pères de l'Église. Donc le geste n'est pas du tout anodin et constitue sans doute un accélérateur dans cette histoire de la diffusion du christianisme et du culte des reliques.
Ce qui apparaît fondamental dans toute cette histoire et en vous lisant, c'est que ces reliques de la Passion, la vraie croix, les clous, plus tard la couronne d'épines, vont prendre véritablement un rôle politique qui va être d'une importance considérable dans toute l'histoire des monarchies orientales et occidentales chrétiennes.
Effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner ce lien très fort. Et à ce titre-là, la geste de Constantin avec l'invention de la vraie croix et via sa mère Hélène apparaît comme fondateur. C'est-à-dire que les monarques successifs en Orient et en Occident vont essayer de rejouer cette association supposée très forte entre la figure du Christ et une figure impériale ou royale. Et donc on va retrouver, alors à chaque fois dans des modalités différentes, mais à Byzance, à Constantinople, tout au long de l'ère byzantine, à la cour de Charlemagne, plus tard avec Saint-Louis, l'objectif vraiment de fonder un pouvoir impérial, monarchique ou même plus local sur une proximité sacrale avec le sacré et avec la figure du Christ. Donc effectivement, là, pour le coup, il y a une tradition orientale et occidentale de proximité du pouvoir avec le sacré. Et roi et empereur, celui qui peut manipuler le sacré et encore plus autour de la figure du Christ.
D'où cette nécessité de s'approprier, si j'ose le mot, les reliques du Christ. Alors très vite, trois pôles dévotionnels se constituent. Jérusalem, bien entendu, où la vraie croix va rester jusqu'à l'invasion perse. Constantinople, où, comme vous le rappeliez, Nicolas Guyard, Hélène va attirer un maximum d'objets sacrés pour renforcer la sacralité du pouvoir de son fils Constantin. Et Rome, où d'ailleurs, selon la tradition, elle fait transférer une parcelle de la vraie croix qui est déposée dans la basilique Sainte-Croix en Jérusalem. Comment s'expliquent ces trois pôles, qui sont d'ailleurs trois pôles du pouvoir religieux et politique ?
Alors effectivement, on a ces trois pôles. Alors on a le pôle originel Jérusalem, mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que finalement, à partir du moment où les reliques du Christ apparaissent, probablement à la fin du 3e au début du 4e siècle, autour notamment de pèlerinages, ces reliques sont diffusées et circulent. Elles sont, alors parfois, ce sont uniquement d'infimes parcelles qui sont envoyées ailleurs, mais parfois ce sont des reliques entières qui circulent. Et donc, on a toute cette histoire des pouvoirs extérieurs à Jérusalem, Constantinople, Rome, et puis même Paris, plus tardivement, qui vont essayer de capter cet héritage sacral. Et les moments de crise dans le Moyen-Orient, avec l'arrivée des armées perses, puis des armées arabo-musulmanes à partir du 7e siècle, constituent des moments d'accélérateur où plus Jérusalem s'éloigne, entre guillemets, de la sphère chrétienne, et plus elle paraît inatteignable, plus les efforts pour se procurer les reliques de Jérusalem vont être intenses. Et donc on a ces moments d'accélération, probablement 7e, 8e siècle, 9e, 10e siècle, puis un peu plus tard, on y reviendra, je pense, au moment des croisades. Donc effectivement, on a ce transfert d'abord de Jérusalem à Constantinople, et puis un peu plus tard de Constantinople vers l'Occident. Et on a assez rapidement des pèlerins qui sont assez surpris de voir que pour contempler et prier les principales reliques du Christ, finalement, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Jérusalem. Si on s'arrête à Constantinople, finalement, la plupart des reliques du Christ s'y trouvent dès le 6e, 7e siècle. Alors, bien sûr qu'on pousse jusqu'à Jérusalem, mais en tout cas, on voit cette captation du sacré de l'Orient vers l'Occident avec cette étape de Constantinople.
Jusqu'au moment, d'ailleurs, où les reliques vont arriver en Occident même, il y a une figure intéressante, c'est celle de Sainte Radegonde, qui va obtenir de l'impératrice Sophie et du basileus Justin II une parcelle de la vraie croix. Ce qui est très intéressant dans l'affaire, c'est qu'en général, le basileus n'accepte pas la croix faisant partie, vous le rappelez à l'instant, Nicolas Guyard, faisant partie de la sacralité du pouvoir impérial. Il n'accepte pas, ou très rarement, d'en céder un véritable morceau. Vous parliez d'infimes échardes, mais là, il s'agit d'une véritable relique. Alors, est-ce que, là encore, nous ne sommes pas en face d'un acte très politique d'un côté comme de l'autre, Radegonde jouant le rôle d'un diplomate, c'est le mot, entre un empire franc qui se forme et qui, depuis Clovis, est tout de même en rupture ouverte avec la sphère byzantine à laquelle est arraché, et un pouvoir byzantin très affaibli, mais qui souhaite garder au moins nominalement une influence sur les anciennes provinces de l'Empire d'Occident.
Effectivement, vous soulignez, notamment pour toute cette période qui va du 6e jusqu'à l'époque carolingienne, l'intensité des liens entre Orient et Occident, et qui sont, depuis une vingtaine d'années, considérablement réévalués. Il y avait toute une littérature que l'on a jugée peu fiable autour de pèlerinages de Charlemagne, etc., etc. Mais en fait, on se rend compte que l'émergence des royaumes francs puis du pouvoir carolingien ne signifie absolument pas la fin des relations entre l'Occident et Constantinople et l'Empire romain d'Orient. Ne serait-ce que parce que celui-ci demeure très présent dans la péninsule italienne, qui sert également d'interface entre les deux mondes, et parce que l'empereur a toujours une prétention impériale très forte et que jamais le dialogue n'est rompu, notamment avec les royaumes francs, qui savent également que leur légitimité peut se jouer dans les relations qu'ils peuvent avoir directes ou indirectes avec l'empereur byzantin. Et donc, les reliques, aujourd'hui, des rares preuves qui montrent d'échanges, de liens tout à fait importants. Vous soulignez la dimension diplomatique qui est à l'œuvre, qui est relativement classique. On a également toute une sociabilité entre ecclésiastiques qui peut se matérialiser, qui peut se concrétiser par le don de reliques, entre autres. Donc on a effectivement toute cette série d'échanges qui se maintient et qui explique en grande partie pourquoi, dès le 6e, 7e siècle, on a des reliques du Christ qui commencent à apparaître. Alors vous citez l'exemple de Sainte Radegonde dans son monastère de Poitiers, mais donc toutes ces reliques du Christ qui arrivent peu à peu dans les sanctuaires d'Occident.
Il y a des dons, il y a aussi des achats, il y a un véritable commerce de reliques qui va d'ailleurs entraîner la circulation d'objets plus que douteux.
Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'à très rapidement, à Constantinople, on comprend la fascination des Occidentaux pour les reliques du Christ, et et le prestige dont jouit l'Orient et Jérusalem en Occident. Et donc, hein, on sait très bien qu'un voyageur occidental qui voit des reliques du Christ, hein, ça peut potentiellement donner lieu à un certain nombre d'échanges. Hein. Alors, douteux, c'est toujours une question assez compliquée à aborder, mais en tout cas, on voit très bien que se met en place une forme de marché, pour reprendre des mots contemporains, où les reliques du Christ bénéficient d'une valeur tout à fait de plus en plus importante dans l'Occident, hein, et le temps fort de ce marché, c'est sans nul doute la translation de la couronne d'épines avec Saint-Louis.
D'ailleurs, l'on s'aperçoit en vous lisant qu'à côté des très grandes reliques que sont celles de la Sainte Croix, la couronne d'épines, les suaires, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins, j'allais dire, attractives dans notre mentalité moderne. Il y a des gens qui rapportent seulement un peu de terre sainte ou une pierre ramassée à proximité du tombeau du Christ, et pourtant cela va attirer les foules.
Alors effectivement, on a alors c'est quelque chose qui est très propre aux reliques, hein, dans le christianisme, c'est l'idée que la relique est touchée par une forme de virtu liée à la figure sainte qu'elle contient, et que ce pouvoir sacral se diffuse dans tout ce qui est en contact. Et donc les pèlerins, lorsqu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne sont pas suffisamment importants socialement, ils n'ont pas les bonnes relations, n'ont pas les moyens de ramener une parcelle de la vraie croix ou autre chose, vont essayer de ramener une sorte de souvenir, on parle souvent de memoriae, de la Terre Sainte. Et ce qui relève du souvenir, progressivement, se transforme en relique, notamment lorsque ces objets arrivent dans les sanctuaires d'Occident. Et on pense que ces objets servent de support à des pèlerinages mentaux, en oraison uniquement, en Occident, et marquent en fait une forme de translation, non pas d'un objet en particulier, mais de la Terre Sainte dans sa globalité, via ces petits fragments qui peuvent sembler dérisoires de terre, ou d'argile, ou de pierre du Saint-Sépulcre, dans les sanctuaires d'Occident. Et donc on a plein d'objets tout à fait intéressants et surprenants. On a l'impression que très rapidement, tous les grands épisodes des évangiles se retrouvent en infimes parcelles de terre ou de pierre dans les églises d'Occident.
Le phénomène prend des proportions tout à fait gigantesques après la chute définitive de Jérusalem aux mains des musulmans, et puis en 1204, après la chute de Constantinople aux mains des occidentaux, nous allons assister à un véritable pillage, peut-être pas le mot, certains objets ont probablement été tout de même achetés. Enfin, tous les objets sacrés, en tout cas une très grande partie qui faisait la gloire des églises de Constantinople, vont partir vers l'Occident. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi se rendre encore en Orient si l'essentiel des reliques du Christ se trouve désormais en Europe ?
Alors, c'est une excellente question qui renvoie à la pratique pèlerine. Il y a l'idée, effectivement, que le pèlerinage à Jérusalem demeure une constante dans l'histoire du christianisme, avec ses temps forts, notamment lorsque Jérusalem est facilement accessible. Mais, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, que voir à Jérusalem ? Et on se rend compte, alors les témoignages de pèlerins qui se rendent à Jérusalem jusqu'à assez tardivement, jusqu'au 15e siècle notamment, et qui pour eux vont contempler le Saint-Sépulcre vide. Ça reste quand même un des hauts lieux, voire le lieu de la résurrection. Finalement, c'est quelque chose qui est davantage recherché que l'épreuve de l'existence du Christ sur Terre. Donc un certain nombre de pèlerins, s'ils ont l'opportunité et les moyens de se rendre à Jérusalem, vont quand même continuer d'y aller. Mais pour la plupart, on a notamment, lorsque se développent les indulgences au XIVe siècle, on a très bien un rapport qui est fait, si dans votre église locale, qui possède une relique du Christ en particulier, si vous effectuez un pèlerinage, vous avez les mêmes gains que si vous effectuez un pèlerinage à Rome et à Jérusalem. Donc effectivement, on a cette re-territorialisation qui s'effectue en Occident lors du Moyen-Âge, au fur et à mesure que les reliques du Christ arrivent. Et donc, Jérusalem devient plus ou moins symbolique, fantasmée, avec des échos très concrets en Occident.
Quand on vous lit, on est étonné de la diversité des objets sacrés ou supposés tels qui commencent à affluer dans les églises de France, d'Italie, d'Allemagne. Vous, sans vouloir être exhaustive, il faut citer la Sainte Couronne que Saint-Louis va acheter, la vraie coiffe qui se trouve à Cahors, les linceuls, parce qu'il n'y a pas que celui qu'on vénère aujourd'hui à Turin, la fameuse Véronique à Rome, la Sainte Tunique d'Argenteuil, et bien d'autres. Je le disais, la liste n'est pas exhaustive. Mais ce qui est très remarquable en parallèle, c'est que l'Église développe dans le même temps, avec une dévotion eucharistique de plus en plus importante, la dévotion au Saint-Sang, au Sacré-Sang, à travers des miracles eucharistiques, d'hosties qui saignent. Est-ce que vous établissez, Nicolas Guyard, un parallèle entre cet afflux des reliques de la Passion et cette dévotion au précieux sang?
Alors effectivement, il y a un certain nombre de liens et qui ont été considérablement réévalués avec des thèses récentes sur ces sujets-là qui sont tout à fait intéressantes et qui nous permettent de mieux comprendre comment tout cela s'organise. En fait, on pense quand même qu'on a une inflexion majeure dans le christianisme à partir de la réforme grégorienne, probablement à la fin du XIe siècle, et qui va trouver sa quintessence au XIIe et XIIIe siècle, qui est le développement d'un christianisme peut-être plus conforme à celui qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup plus doloriste, qui va beaucoup plus insister sur la passion du Christ, sur sa souffrance, les douleurs, etc. etc.
L'influence franciscaine.
Probablement, en partie, peut-être un peu avant, alors que la religion à Constantinople insiste beaucoup plus sur la victoire de la résurrection, le triomphe sur la mort, et dont la vraie croix incarne à ce titre parfaitement cette dynamique-là. Donc ce virage doloriste du christianisme en Occident trouve effectivement les échos, dans les objets vénérés. Alors sur le cas du Saint-Sang qui apparaît dans les hosties, alors on a à la fois cette dynamique doloriste qui insiste sur le sacrifice du Christ lors de l'Eucharistie, lors de la messe, et puis aussi ces hosties sanguinolentes apparaissent à un moment où il y a des débats sur la transsubstantiation, et le miracle vient montrer que le dogme de la transsubstantiation est valable, c'est bien le corps et le sang du Christ qui sont dans l'hostie consacrée. Donc on a à la fois ces deux dimensions qui s'articulent sur ces miracles, mais effectivement qui fleurissent à partir de la fin du XIe siècle jusqu'au XVe siècle, on retrouve des hosties qui saignent, notamment dans l'espace germanique, au XVe siècle.
Alors il ne faut pas s'imaginer, malgré tout, que ces dévotions sont approuvées par tout le monde. Déjà, un certain nombre de théologiens catholiques s'inquiètent très tôt des formes excessives de dévotion rendues aux reliques, au détriment des sacrements. Mais à partir de la Réforme, et notamment avec Calvin, nous assistons à une réaction d'une très grande violence qui passe de la réfutation à la destruction pure et simple des reliques dans certains cas. C'est un phénomène qui va se reproduire au XVIIIe siècle avec la Révolution française. Que signifie, Nicolas Guyard, cet acharnement des esprits qui se veulent éclairer contre des objets dont, au fond, ils pourraient se contenter de rire?
Alors, effectivement, beaucoup d'éléments dans votre question, pour y répondre de manière la plus synthétique et la plus complète possible, je dirais qu'avant la réforme, on a effectivement tout un courant critique ou sceptique sur le culte des reliques. Alors, ce qui est paradoxal avec le culte des reliques, c'est qu'il n'a pas de fondement théologique. Il n'y a pas une théologie du culte des reliques et des saints, contrairement par exemple à ce qu'on peut avoir pour les images. Ce qui est critiqué par un certain nombre de clercs, c'est des attitudes des fidèles. Et un certain nombre de clercs sont très inquiets de défendre un aspect christocentré du culte des reliques, c'est-à-dire à travers les ossements des saints, à travers les figures saintes, à travers les restes du Christ, c'est bien le Christ, in fine, qui est vénéré. Et donc on a peur qu'on tombe dans des formes, ce qui est qualifié dès le 8e, 9e siècle, de superstition, voire d'idolâtrie, où les fidèles donneraient à l'objet en lui-même un pouvoir sacré indépendant de Dieu ou de la figure du Christ. Luther puis Calvin vont avoir une réaction beaucoup plus radicale, rejeter globalement le culte des saints et des reliques, et les reliques du Christ, en faisant des objets diaboliques. Leur propos est assez simple, ils disent voilà, ce sont des objets destinés par le diable sur terre pour piéger les fidèles et les détourner de la vraie foi. À partir du moment où on considère que ce sont des objets diaboliques, il faut les détruire. Alors, l'iconoclasme protestant, qui a été bien étudié depuis une trentaine d'années, n'est pas du tout un iconoclasme incontrôlable qui se déchaîne. On est vraiment dans le cadre d'un iconoclasme rationnel, où on cible les reliques à détruire, et dans un processus très politique, elles sont détruites. Pour la Révolution française, les travaux récents nuancent l'importance de l'iconoclasme révolutionnaire, en tout cas pour les reliques. Les reliques qui sont détruites, ce sont des reliques jugées douteuses par les révolutionnaires. Donc on a toute une population de révolutionnaires qui jugent, qui dénoncent les ténèbres dans lesquelles l'Église laisse ses fidèles et vont cibler les reliques qu'ils jugent particulièrement scandaleuses et et vont les, en les dénonçant hein, comme superstitieux.
Vous parlez entre autres du suaire de Besançon, dont alors, on prétend qu'il y a des matrices pour le reproduire chaque fois qu'il s'abîme.
Voilà, alors on est sur une histoire plus ou moins fantasmée, hein, où les révolutionnaires auraient trouvé en fait hein, la preuve de la supercherie ecclésiastique. En fait, les ecclésiastiques, d'après eux, se contenteraient d'imprimer et de reproduire un suaire tous les ans pour faire croire aux fidèles qu'il est authentique. Mais si vous regardez le suaire de Besançon, en fait, Hachi était vraiment été détruit. Il a été saisi et il a été placé, alors on ne sait trop où, alors dans le dossier de Besançon, hein, on fantasme ça. Ça survit aux épisodes révolutionnaires tout au long du 19e siècle. Mais finalement, ce qui intéresse les révolutionnaires, c'est davantage d'écarter ces objets qui sont superstitieux du culte plutôt que les détruire réellement. Donc effectivement, on a des destructions, on a des désorganisations. Hein, souvent, ce qui va beaucoup plus intéresser les révolutionnaires, ce sont les reliquaires.
Et notamment évidemment, ils ont une valeur marchande.
Voilà, qui ont une valeur marchande, qui vont être détruits. Et donc cette séparation entre reliques et reliquaires, et entre les reliques et la documentation qui est associée, va faire beaucoup plus de dégâts que l'iconoclasme révolutionnaire en lui-même. Mais effectivement, hein, on est sur une geste révolutionnaire qui va beaucoup marquer les catholicismes du XIXe siècle, qui vont écrire toute une littérature très importante pour dénoncer les exactions et le vandalisme, hein, c'est le thème du vandalisme qui apparaît, des révolutionnaires contre la religion chrétienne.
Nicolas Guyard, cette émission touche malheureusement à sa fin. Pour conclure, pourriez-vous me dire, d'après vous, quelle est la place dans le christianisme moderne et jusqu'à nos jours, justement, de ce culte et des reliques? Est-ce quelque chose de dépassé ou au contraire un phénomène tellement fondamental que, quelles que soient les crises, il renaît systématiquement?
Alors, pour le christianisme contemporain, il me semble qu'il faut mettre à part le sueur de Turin hein, qui a catalysé un certain nombre de débats. Mais à mon sens, hein, le culte des reliques, et en particulier des reliques du Christ, qui avait connu une certaine désaffectation avec le Concile Vatican II, en tout cas qui n'était plus une priorité pastorale, connaît depuis les années 90 un renouveau qui est tout à fait intéressant. Et un renouveau, à mon sens, qui est symptomatique de deux dynamismes qui traversent le catholicisme contemporain. Le premier, c'est une frontière de plus en plus trouble entre ce qui relève du cultuel et du culturel. Je pense par exemple à ce qui s'est passé avec la Sainte Coiffe de Cahors. Hein, on en fait un événement à l'échelle de la ville de Cahors. On a fêté, commémoré un de ses anniversaires en 2019, et qui attire finalement autant des touristes que des fidèles, et dans l'objectif de témoigner de la vitalité de l'église cadurcéenne. L'autre logique à l'œuvre et qui m'apparaît comme étant tout à fait intéressante et fondamentale pour comprendre le catholicisme, notamment aujourd'hui en France, c'est la mise en avant d'objets cultuels et historiques témoignant d'une inscription temporelle très importante. Je pense par exemple à ce qui se passe à Argenteuil, où on a relancé les ostensions hein, dans un contexte de région parisienne, hein, de crise, tout point de vue pour l'Église catholique, hein, des vocations, de la fréquentation des églises, etc. À Argenteuil, c'est affirmé l'inscription dans une église pluriséculaire hein, qui renvoie à une histoire glorieuse. Et être chrétien à Argenteuil, c'est également appartenir à cette histoire-là. Donc, hein, c'est rappeler à la fois une profondeur et une dimension dévotionnelle exceptionnelle, mais également rappeler une profondeur et une densité historique hein, qui est mise en avant par les autorités ecclésiastiques aujourd'hui.
Nicolas Guyard, je vous remercie. Je rappelle que vous publiez aux éditions du CERF Les Reliques du Christ, une histoire du sacré en Occident, qui est un livre très passionnant, très remarquable, et dont j'ajoute qu'il est très accessible au public, même non universitaire. Merci encore.
Merci à vous.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.
Au ras des pâquerettes, Étienne Dallaire.
Je vous invite à cheminer à travers les grandes questions de la vie et de la foi, mais aussi à travers les petites questions du quotidien. Vous savez, celles qui nous font avancer sans en avoir l'air. Dans mon émission, Au ras des pâquerettes.
Au ras des pâquerettes, tout l'été, du lundi au vendredi, à 5h30, 13h10 et 19h. Intégrale le dimanche à 22h. Dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Tout va bien ?
Tout va bien, toujours fidèle au souffle de l'esprit.
Oui, on essaie. Reprenons si tu veux bien le catéchisme. Et là on est actuellement au numéro 689. On lit « Quand le Père envoie le Fils, il envoie toujours son souffle ». Il semble donc que le Fils et l'Esprit Saint soient très liés l'un et l'autre.
Oui, il y a une mission conjointe, comme dit le catéchisme, c'est-à-dire que rien ne peut se faire ad extra de la Trinité sans qu'il y ait action commune du Père qui envoie. Et Jésus d'ailleurs s'y réfère souvent. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit-il au jour de la résurrection. Donc il y a bien une continuité totale entre sa mission de fils et notre propre mission d'apôtre et successeur des apôtres et jusqu'à nous qui sommes les fidèles du corps du Christ, les fidèles de Jésus-Christ qui continuons son action. L'Église, c'est dans le fond Jésus-Christ continué, prolongé, dirait Bossuet. Et il y a donc inséparation entre l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et particulièrement, les deux missions divines qui sont celles du Fils et du Saint-Esprit, qui nous rejoignent, nous montrent la collaboration des trois personnes divines, cette action commune qu'ils réalisent ensemble, et cette mission conjointe où le Fils et l'Esprit Saint, dit le catéchisme de l'Église catholique, sont distincts mais inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Mmh. Donc il y a vraiment une entière collaboration, et je ne pourrais pas, si vous voulez, inventer une sorte de théologie des religions dans laquelle il y aurait d'un côté une théologie du Saint-Esprit, et puis de l'autre côté, une théologie ecclésiale de Jésus-Christ avec l'Église, qui serait une des options, dans le fond, pour être sauvé. Et on pourrait avoir plein d'autres options, parce que ce serait des théologies du Saint-Esprit. Il faut récuser fermement cela. Et nous savons que le pape Jean-Paul II a été très attentif, lui qui a débuté une action missionnaire extraordinaire dans le monde par tous ses grands voyages apostoliques, puis ses grands textes qu'il a publiés d'exhortation apostolique sur les cinq continents, Ecclesia in Europa, Ecclesia in America, Ecclesia in Africa, Ecclesia in Asia, Ecclesia in Oceania. Tous ces grands textes ont montré qu'il avait un souci permanent de l'action du Saint-Esprit dans le monde. Et que cette action donc montrait bien que on ne devait pas limiter l'Église à seulement la visibilité institutionnelle des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont marqués par le baptême dans l'Église catholique. Il y a une action qui, bien sûr, dépasse cette visibilité, mais en même temps qui attire à elle. Nous sommes tous orientés à l'Église catholique. C'est ça le grand message du Concile Vatican II, c'est que l'Église est un don de Dieu, un don du Saint-Esprit qui permet à Jésus-Christ d'être présent le plus possible, mais en même temps, il y a une ordination à ce corps du Christ. Et donc, les hommes et les femmes de bonne volonté du monde entier, qu'ils appartiennent à une religion ou pas, qu'ils soient seulement des hommes de conscience de bonne volonté ou qu'ils appartiennent à une religion non chrétienne, sont ordinatur ad, c'est-à-dire ordonnés à l'unique Église du Christ qui subsiste dans l'Église catholique, dit le Concile Vatican II. Et donc, de ce point de vue-là, la mission de Jésus-Christ est entièrement connexe à la mission du Saint-Esprit, qui joue son rôle, évidemment, pour ordonner à les personnes qui sont encore extérieures à cette Église. C'est le Saint-Esprit qui attire à l'Église. Mmh. Et malheureusement, il y a des cas où on doit le regretter. C'est pour cela que l'Église fait pénitence régulièrement, parce que des fois, le témoignage n'est pas assez bon pour que les gens aillent jusqu'au bout de cette attirance. On se souvient du grand Mahatma Gandhi, qui avait été très admiratif de Jésus-Christ, très admiratif de son évangile, mais qui disait, au contact de l'Église anglicane qu'il rencontrait en Inde, eh ben, ça ne me dit pas, moi, de passer le Gange, en quelque sorte, de franchir, comme on dirait en Terre Sainte, de franchir le Jourdain pour suivre Jésus. Eh bien, donc, il est resté en dehors de l'Église catholique, mais il y avait en lui un désir de vivre la vérité des évangiles et de le mettre en action dans son pays, même si, bien sûr, il n'a jamais fait le pas vers cette adhésion. Il ressentait comme une ordination à. Et c'est ça où on voit l'action du Saint-Esprit, qui est très invisible dans les cœurs, mais qui suscite des désirs, qui suscite des attirances, qui suscite des souffles dans les cœurs pour tout à coup agir de telle et telle manière et finalement se christo-conformer un jour. Et dans le fond, le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est une christo-conformation, c'est-à-dire on devient conforme au Christ. Et ça, c'est le Saint-Esprit tout seul qui est capable de le faire.
Alors justement, pour approfondir ce lien entre le Fils et l'Esprit Saint, le numéro 690 propose une notion intéressante. Il rappelle que Jésus est le Christ, ça veut dire en grec celui qui est oint, et que l'Esprit est l'onction. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ce lien étonnant entre le oint et son onction?
Alors, il faut se souvenir que Messie en grec, c'est Christos, et Christos, c'est la traduction de Machiar, qui est loin. Donc Jésus, quand il réclame ou quand il est désigné par ses apôtres comme étant vraiment le Messie et qu'il reconnaît que c'est bien lui, il se place comme celui qui est loin. Et de fait, le jour du baptême, qu'est-ce qui se passe? Le baptême du Christ dans le Jourdain, eh bien, il y a une descente du Saint-Esprit avec une déclaration par la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Donc il y a vraiment une reconnaissance que Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit qui est symbolisée sur la forme de la colombe au moment du baptême, mais au moment de la transfiguration, pareil, c'est la même voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et là, le Saint-Esprit apparaît, non pas sous une forme de colombe, mais avec la nuée qui recouvre le Fils et aussi le corps de gloire de Jésus. Parce que souvent, l'Esprit Saint est appelé comme l'Esprit de gloire. Et c'est une belle expression de la tradition que l'on trouve, par exemple, jusque dans Saint-Pierre. Saint-Pierre, dans sa célèbre donc épître, sa première épître, nous parle de l'esprit de gloire en parlant du Christ. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc il y a une sorte de lien intime entre Kavod, la gloire de Dieu, et l'esprit. Et on comprend très bien à ce moment-là que ce lien entre les trois peut être signifié à travers la thématique de l'onction. Nous avions rencontré au numéro 438, c'est bon de faire de temps en temps des petits rappels, car tous les numéros du catéchisme, évidemment, se tiennent. C'est pas parce qu'on les lit dans un ordre d'incrémentation rapproché qu'il faudrait oublier les numéros anciens. Au contraire, il faut les rappeler de temps en temps. Cette belle parole de Saint Irénée, qui nous disait donc au numéro 438, c'est ce qu'indique le nom de Jésus lui-même, le Christ, car dans le nom de Christ est sous-entendu celui qui a oint, celui qui a été oint, et l'onction même dont il a été oint. Celui qui a oint, c'est le Père, celui qui a été oint, c'est le Fils, et il l'a été dans l'Esprit qui est l'onction. Quelle magnifique parole de Saint Irénée. Donc c'est dans le Adversus Aereses, dans ce grand texte qu'il a livré, qu'il en est tout premier texte de réflexion, je dirais théologique, chrétienne, de l'histoire de l'Église, puisque on pense que Saint Irénée est mort un peu après l'an 200. Et l'Adversus Aereses, donc, qui nous donne ce texte dans la troisième partie, donc sur le traité 18 et numéro 3. Et donc il y a dans cette caractérisation du travail du Saint-Esprit quelque chose qui nous fait comprendre que tout doit être finalement dans l'onction, puisque celui qui oint, c'est le Père, celui qui est oint, c'est le Fils, et que l'Esprit, c'est l'onction. Et un jour, Saint François d'Assise avait fait cette expérience extraordinaire d'avoir été donné un baiser à un pauvre, un lépreux, et il avait eu après une révélation de Jésus qui était venu lui parler. Et Jésus lui avait fait comprendre que il était passé dans ce baiser. Mmh. Le Saint-Esprit était dans ce baiser, dans cette onction.
Le numéro 690, de fait, précise que l'onction, donc c'est de l'huile qu'on met sur la peau, et il y a un lien très fort entre l'huile et la peau. Et donc, s'il y a, on comprend le lien entre Esprit-Saint et Fils, qui est l'onction et le oint, un lien très fort et qu'on ne peut pas enlever. L'huile, on ne peut pas l'enlever, surtout quand elle pénètre la peau. Très bien.
Oui, de fait, y a quelque chose de très mystérieux, mais de très beau dans cette utilisation de l'huile permanente à chaque fois qu'il y a un sacrement avec de l'huile qui nous rappelle que l'esprit est l'onction. Merci.
Merci, frère Edouard. À bientôt.
À bientôt.
Bonjour, c'est Nathalie Cardon. Ouvrez la porte vers une vie plus épanouissante et spirituellement enrichissante avec l'émission Des Clés pour Vivre. Je vous invite à un voyage inspirant au travers des expériences de témoins exceptionnels. Explorez des récits de transformation personnelle et de découvertes spirituelles qui résonnent avec notre vie quotidienne.